la réputation de Glenmore autonomiste, etc. Bon, à l'époque, il y avait du FLB, à l'époque, tu vois. Et c'était Guéna, qui était le Brestois, qui était maire de Périgueux, c'était à Périgueux. Et donc, très bien, on est passé, là, dans le patelin. Mais avant, il y avait une télé à faire. Une télé locale, pour dire, il y a Glenmore qui vient, etc., pour annoncer la télé locale. Et la télé locale, Glenmore, ah bah oui, il dit, Glenmore, ah, il y a le patron de la télé locale qui dit, je peux pas. Papier, signé Michel Debré, passé Glenmore sur les antennes nationales et condamné par la Constitution, signé Michel Debré. Tu vois un peu le truc ?
Oui.
Donc on n'a pas pu faire de télé. Parce que Mélique voulait chanter Sodome, tu vois. Paris, tu peux trembler, etc. Alors, Glenmore, sûrement pas. On a fait quand même Périgueux, et donc on n'a pas pu faire de télé. On a quand même chanté là-bas. Tu vois, c'est quand même rigolo, ça.
Ils sont nés d'un amour bien trop vague. Ces enfants qui marchent les yeux pliés. La crainte l'emporte et la peur divague. Ils sont fils de roi, le père était berger. Ils ont l'empire des preux au cœur de la ville. Sodome est leur gloire et Gomorre le berceau. Le temps laisse leur pas filer tranquille. Ils ont Paris sous le pied, la haine sous manteau. Ils ne sont beaux qu'à la lueur des nuances. Leurs étoiles sont de néon, leur paradis de bordel. Sodome c'est Paris et Paris c'est la France. L'on y crève à genoux, l'on y vit tout pareil. Sodome, ton empire de gloire et d'échéance. Le pauvre se doit de dormir debout. On ne loge que l'argent douce France. Le pauvre et le rat se terrent dans les trous. Elles viennent d'ailleurs par centaines rêver d'argent qu'elles n'ont pas et d'amour qu'elles n'ont plus. Elles ont quitté la Provence et la Touraine avec l'œil du conquérant, nouvelle tenue. Elles sont jolies, les filles de nos campagnes, que Paris va venir bientôt matin. Elles ne pleurent pas encore leur lointaine Bretagne. Elles ont le rire d'enfant, Paris les fait putain. Et ceux-là qui traînent le rire au cœur de la nuit, en vivant de l'argent que la Bretonne a gagné, aux faces honorables et songeant bien assis, Sodome rime leur nom, on les fait députés. Sodome, fleuron de la brigade mondaine qui fait son beurre au pied des macros, ton nom porte en titre lumière, en armes pleines, l'ombre y couche l'enfant, mais non pas le salaud. On accroche l'histoire au pied de Notre-Dame, ce grand immeuble où l'on parle charité. La chaise s'y vend et Paris s'y pâme, quand Riquet le bavard y touche les entrées. C'est encore là que tout se vend ou s'achète, au prix du vendeur malgré le vendu. On y porte l'honneur à hauteur de braguette, l'on s'y fait une gloire en y montrant son cul. Les couples heureux qui passent à l'histoire ont de Cocteau l'esprit, de Jean Marais la virilité. Les orgies d'alcôve et les sabbats de mémoire ont Sodome pour église et Paris pour cité. Ont Sodome pour église et Paris pour cité.
Est-ce que tu peux me raconter l'anecdote de Pétronille ?
Pourquoi Pétronille ? Parce que c'était à l'époque de Glenmore, là. Alors, on jouait à Lorient, et dans le port de Lorient, il y avait un type qui tenait, on avait entendu parler de ça, un cabaret dans un tonnier qui était donc à l'arrêt, qui ne naviguait plus. Et un tonnier, c'est grand. C'est un bateau... la pêche au thon, c'est un truc très grand, quoi. Qui s'appelait la Sainte-Pétronille, ce bateau. Et on devait jouer à l'intérieur de ce bateau, dans la cale de ce bateau. parce que c'était un bistrot qui était dans la cale, en bas, en dessous. Il y avait pas beaucoup, il y avait 8 tables à peu près, 7-8 tables. Mais oui, il y avait 4 personnes par table, tu vois. Il y avait une trentaine de personnes, 40 personnes maximum. Et on devait jouer là-dedans. Alors c'était sous le pont du bateau, dans le, si on appelle le carré, hein, en dessous. Et ma contrebasse tenait pas. Il n'y avait pas assez de plafond. Alors le patron du bistrot, parce que c'était un bistrot, dit, mais si on va faire quelque chose, on va enlever l'écoute, l'écoutille. Alors on a enlevé l'écoutille, c'est un couvercle qui est sur le pont, qu'on enlève pour accéder à la cale. Et on a passé la contrebasse par là, pour qu'elle dépasse et qu'elle puisse jouer, parce que la contrebasse, c'est haut quand même, hein. Ça fait 2 mètres, 2 mètres 10, et il n'y avait pas 2 mètres 10 de hauteur. Donc la crosse passait au-dessus du pont, quoi. Et on jouait, et c'est elle s'appelait la Sainte Pétronille. Elle s'appelait la contrebasse Pétronille depuis, quoi, voilà. C'est pour ça qu'elle s'appelle Pétronille. Pétronille, c'est un diminutif de Pierre. C'est Pierrette, Pétronille, Pétronille, c'est un nom de fille, c'est un prénom de fille, Pétronille, mais c'est rigolo comme prénom, quoi. Donc ma contrebasse s'appelle Pétronille depuis, quoi.
Est-ce que tu peux me raconter une des anecdotes, parce que tu as 80 ans, donc tu as une vie très, très, très riche.
Oui, c'est très bien.
Et donc, est-ce que tu peux me raconter des anecdotes, par exemple, ta rencontre avec Brassens?
Brassens, c'est très rapide. On jouait à Les Adrieux, avec Alain Mort. Les Adrieux, c'est près de Paimpol, là. Et il était dans la salle. Ah! Oh. Tout le monde savait, bien sûr, qu'on voit que Brassens arrivait, tout le monde le reconnaît, avec sa moustache, etc. Il était avec plusieurs personnes, une femme et 2-3 personnes, etc. Il était dans la salle. On est arrivé, nous, et la salle était presque pleine. C'était une salle, c'est pas une salle de spectacle, c'était une salle de maison de jeunes, quoi. Une salle dans laquelle il y avait des tables disposées avec des gens buvaient un coup, etc. Une table de 4, de 5, de 6, partout. Il y avait peut-être, je sais pas, 120 personnes, pas un truc comme ça. Et je monte ma contrebasse, et puis tout le monde avait vu, bien sûr. Moi, j'ai même pas fait gaffe. Je rentre, je fais ma contrebasse sur scène. Puis, Monsieur Brassens, c'est là. Avec un tour d'œil, tout de suite, on a vu la table où il était, quoi. Donc, on fait notre truc, comme d'habitude. Moi, je m'applique, parce que, bon, avec Brassens dans la salle, t'as vu, je serre un peu les fesses, tu sais. On m'aurait mis une feuille et une cigarette. Quelque part, je ne serais pas tombé, tu vois. Donc voilà, je serrais les fesses. Parce qu'il fallait que je joue bien, quoi. Ben, quand même, bon. Il fallait que je fasse un effort supplémentaire, enfin un peu de zèle, quoi, tu vois, bon. Et on fait notre truc, bravo, une autre, et on fait 2 chansons. Glenmore, il descend de scène, pff, directement à la buvette, il voit même pas Brassens, il dit même pas bonjour, rien du tout. Il va boire son coup avec les copains. Et moi, la repète derrière, je commence à ramasser mes clous, démonter les micros, démonter le machin, mettre ma contrebasse sur le truc, rentrer, etc. Et je vois qu'il fait un signe vers moi. Je dis, mais c'est pas moi qui l'appelle, quand même. Je fais un tour, demi-tour, savoir si je suis tout seul, il n'y a pas quelqu'un derrière. Je stoppe mes mouvements et puis je vois que c'est moi qui l'appelle. Je dis, qu'est-ce qu'il va me dire? Oh là là. Donc je descends, je vais jusqu'à la table. Il me dit, avec son accent, « J'ai quelque chose à te dire. »« Ah bon ?»« Toi, ton patron, il a une plume exceptionnelle. Il maîtrise la langue magnifiquement. C'est un gars qui a des lettres, on voit bien. Mais c'est un politique. C'est un politique, tu comprends ? La Bretagne indépendante ou autonome, il sait faire la différence entre l'autonome et l'indépendance. Mais moi, c'est pas ça. Moi, je fais de la poésie, j'aime la poésie, j'aime autre chose. Par contre, toi, je t'ai écouté. T'as joué avec ton cœur, c'était très bien. Alors, je prends une bière avec toi, je prends une bière. Il est allé chercher une bière, puis on a bu une bière ensemble. Voilà. Il m'a rencontré avec Brassens, et ça m'a fait beaucoup de plaisir.
Il vivait en dehors des chemins forestiers. Ce n'était nullement un arbre de métier. Il n'avait jamais vu l'ombre d'un bûcheron, ce grand chêne fier sur son tronc. Il eût connu des jours filet d'or et de soie. Sans ses proches voisins, les pires gens qui soient, des roseaux mal pensants, pas même des bonbons, s'amusant à le mettre à bout. Du matin jusqu'au soir, ses petits rejetons, tout juste canne à pêche, à peine mirliton, lui tournant tout autour, chantait in extenso l'histoire du chêne et du roseau. Mais bien qu'il fût en bois, les chênes s'écourant, la fable ne le laissait pas indifférent. Il advint que lassé d'être en but au lazy, il se résolut à l'exil. À grand-peine, il sortit ses grands pieds de son trou et partit sans se retourner ni peu ni prou. Mais moi qui l'ai connu, je sais bien qu'il souffrit de quitter l'ingrate patrie. À l'orée des forêts, le chêne ténébreux a lié connaissance avec deux amoureux. Grand chêne, laisse-nous sur toi graver nos noms. Le grand chêne n'a pas dit non. Quand ils eurent épuisé leur grand sac de baisers, quand de temps s'embrasser leurs becs furent usés, ils ouïrent alors, en retenant des pleurs, le chêne content ses malheurs. Grand chêne, viens chez nous, tu trouveras la paix. Nos roseaux savent vivre et n'ont aucun toupet. Tu feras dans nos murs un aimable séjour, arrosé quatre fois par jour. Cela dit, tous les trois se mirent en chemin, chaque amoureux tenant une racine en main. Comme ils semblaient contents, comme ils semblaient heureux, le chêne entre ses amoureux. Au pied de leur chaumière, ils le firent planter. C'est alors qu'il commença de déchanter, car en fait d'arrosage, il n'y eut rien que la pluie, des chiens levant la patte sur lui. On a pris tous ses glands pour nourrir les cochons. Avec sa belle écorce, on a fait des bouchons. Chaque fois qu'un arrêt de mort était rendu, c'est lui qui héritait du pendu. Puis ces mauvaises gens, vandales accomplis, le coupèrent en quatre et s'en firent un lit. Et l'horrible mégère, ayant l'état d'amant, il vieillit prématurément. Puis ces mauvaises gens, vandales accomplis, et s'en firent un lit. Et l'horrible mégère, ayant l'état d'amant, il vieillit prématurément. Un triste jour enfin, ce couple sans aveu passa par l'âche et le mit dans le feu. Comme du bois de caisse, amère destinée, il périt dans la cheminée. Le curé de chez nous, petit saint besogneux, doute que sa fumée s'élève jusqu'à Dieu. Qu'est-ce qu'il en sait le bourre, et qui donc lui a dit qu'il n'y a pas de chêne en paradis? Y a pas de chêne en paradis.